France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'avons-nous vu ? Le vendredi 28 février 2025, qu'avons-nous vu vraiment? Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, l'administration Trump avait placé un piège pour que, au mépris de toutes les règles de la représentation internationale, leur hôte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, se transforme en proie et puisse être publiquement humilié devant les télévisions. Ce qu'on a vu ce jour, avec effroi, incrédulité, avec surtout cet insondable sentiment de honte qui vous étreint malgré vous dès lors que quelque chose de la dignité humaine est saccagé, ce n'est pas seulement un coup d'éclat, ni même peut-être un coup d'État, mais un stupéfiant événement visuel qui, je ne veux pas dire profane, mais disons plus prosaïquement, salope. Ouais, salope, un lieu de pouvoir, un lieu qui nous intime pourtant l'ordre de se tenir droit et qui, sous nos yeux, se vautre dans le plus désolant des spectacles télévisuels, portant un nom banal et hideux qui bientôt fera le tour du monde, le clash. Et le dernier mot de Trump fut « Je pense que nous en avons assez vu, qu'en pensez-vous ? » Ça va faire de la bonne télévision. Oui, oui, de la bonne télévision si on ne trouve pas les mots qui sauront la contredire. Alors, allons-y voir, puisqu'on nous dit qu'on en a assez vu. Entrons dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette image a fait effraction dans nos vies, alors nous avons bouleversé notre programmation et nous sommes ce dimanche exceptionnellement en direct avec nos invités, que je remercie, Pierre Gervais, Mathieu Pot-Bonneville et Thierry Sarment, pour ne pas nous laisser sidérer face à cette entreprise de destruction qui s'annonce et qui s'énonce comme ça.
Oui.
Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup.
Donald qui ?
Roy Cohn, enchanté.
Comment on gagne ?
La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Règle numéro 2, ne jamais rien admettre, toujours tout nier. Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile.
Mais c'est illégal.
Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner.
On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique.
Rendre, j'adore ce mot.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film d'Ali Abbasi, The Apprentice, biopic du début de la carrière de Donald Trump, reprenant d'ailleurs le titre de son émission de télé-réalité, puisque décidément, depuis Berlusconi, les grands désastres politiques commencent toujours par des catastrophes télévisuelles. Pierre Gervais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire économique et politique des USA. Vous avez étudié à Princeton, êtes actuellement professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous intervenez régulièrement dans les médias et on vous y entend alerter régulièrement sur le danger du devenir fasciste, vous dites le mot, du parti républicain et la destruction en fait de la démocratie. C'était un moment important ou un moment de plus ?
C'est un moment de plus, c'est pas le moment le plus important. La destruction est en cours, elle passera plus ailleurs qu'au bureau ovale, que dans le bureau ovale lui-même.
Mais vous voyez quand même un rapport avec cet autre vandalisme, mais vu d'en bas,
c'est le même programme. Capitole. C'est le même programme, il y a un programme commun, effectivement.
Bonjour Mathieu Pot-Bonneville.
Bonjour Patrick Boucheron.
Nos auditrices, nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes philosophe, spécialiste de Michel Foucault, directeur du département culture et création du Centre Beaubourg. Vous vous intéressez à tout, en fait, aux séries télévisées, aux images, aux livres. Mais d'abord, je crois, à tout ce qui peut animer ou dégrader un espace public. En avril 2018, vous avez donné une conférence performée au TNB de Rennes, intitulée « Archéologie de la véhémence, brève histoire de la colère à la télévision », qu'on peut voir sur votre site. Ça a été quoi votre première réaction quand vous, vendredi soir, quand vous avez...
Vous avez assez bien décrit le complexe de sentiments que cette scène suggérait, hein, entre le dégoût, une certaine forme de sidération et d'intimidation. Je crois que l'une des caractéristiques de la présidence Trump numéro 2, c'est qu'elle fonctionne profondément à l'intimidation, auprès d'ailleurs de l'ensemble de ses interlocuteurs. Il s'agit d'intimer des ordres et en même temps de construire un désordre, si j'ose dire. Et donc c'est à la fois un sentiment de saccage, en effet, et puis une envie de trouver le moyen, ce qui n'est pas facile avec ce genre de scène, de ne pas s'en laisser compter, de ne pas s'en laisser imposer par la mise en scène qui avait été choisie.
Oui, et de ne pas non plus se laisser enivrer par justement le vertige herméneutique en disant « Ah bah tiens, on va faire de la sémantique du pouvoir » parce que d'une certaine manière, on est aussi dans le piège.
Ce sont des scènes compliquées à commenter parce que commenter, c'est aussi relayer. Donc il ne faut pas se laisser sidérer, mais il faut pas non plus, il faut essayer d'éviter ce que Serge Danet, le critique Serge Danet, appelait la sémiocuistrerie, qui consiste à décrypter ce qui a été encrypté à notre attention d'une certaine manière. Donc trouver un moyen de parler sans se faire la chambre d'écho ou le vecteur d'une rediffusion en boucle d'une scène vis-à-vis de laquelle on va prendre une distance critique, mais ça contribuera tout de même au buzz. Le vide du buzz, c'est que sitôt qu'on en parle, on le sert.
Et c'est pour ça qu'on a voulu justement partir du lieu, parce que si dans cette scène, Trump et son administration, mais disons sa bande, sa meute, veulent intimer des ordres, c'est contre l'ordre architectural aussi qui normalement doit tenir un certain comportement. Bonjour Thierry Sarment.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes historien, auteur de nombreux livres sur la politique et la guerre de Louis XIV, mais aussi de Pierre le Grand, car vous connaissez très bien le monde russe. Vous êtes aussi conservateur général du patrimoine aux Archives nationales. Vous avez dirigé les collections du Musée national, donc les palais, leurs décorations, ça vous connaît. Et d'ailleurs, vous venez de faire paraître chez Talendier une très belle et volumineuse synthèse sur la mise en scène du pouvoir en France des Mérovingiens aux époux Macron, intitulée « Histoire des palais ». À la toute fin, justement, il y a la Maison Blanche en rapport ou en comparaison avec l'Élysée. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire visiter ces lieux? On va commencer comme ça.
Alors, il faut d'abord parler de la Maison Blanche. La Maison Blanche, comme son nom ne l'indique pas, c'est un palais. Et dès le départ, on en parle d'un Presidential Palace. Il est construit entre 1792 et 1800, dans l'esprit de prolonger à la fois les grandes demeures patriciennes de la côte Est, et puis plus lointainement, les châteaux et les palais de la Grande-Bretagne. Le bureau ovale, il est situé dans l'aile ouest, qui est un bâtiment annexe du début du XXe siècle, mais qui reproduit les codes de la Maison Blanche.
Donc il n'est pas du tout central, en fait.
Il n'est pas central, il est sur le côté, il n'est pas énormément en évidence dans l'architecture du bâtiment, mais il reste dans l'esprit initial, qui est celui de l'architecture néoclassique géorgienne, qui est finalement conçu aux États-Unis comme le style officiel et le style qui est lié à l'indépendance des États-Unis. C'est celui des résidences des pères fondateurs des États-Unis.
Ce que vous décrivez dans votre livre, l'histoire des palais pour la France, c'est la manière dont les présidents, en l'occurrence, pour le XXe siècle au moins, font régulièrement rentrer l'art contemporain dans les palais, en particulièrement aujourd'hui. Jamais à la Maison-Blanche, ou pratiquement.
Il y a eu de timides essais de la part d'Obama, très très limités, qui se limitaient à une table basse dans le bureau ovale, parce que ce bureau ovale, il est patrimonialisé. D'abord, il faut imaginer une pièce de 75 mètres carrés,
donc c'est petit,
pas immense, quand même 5,50 mètres sous plafond, ce qu'on ne voit pas à la télévision, donc il y a une certaine majesté du lieu due à la hauteur sous plafond. Un ovale avec d'un côté trois grandes portes-fenêtres sur le jardin, le bureau du président, le célèbre Resolute Desk.
Alors lui, il a été donné par la reine Victoria.
Donné par la reine Victoria, parce que fait à partir du bois d'un navire britannique qui avait été secouru par les Américains. Donc c'est une marque de l'alliance entre Grande-Bretagne et États-Unis. Et puis l'autre partie de la salle, puisque ce n'est pas qu'un bureau, c'est aussi un salon de réception, ce sont des sièges devant une cheminée, deux canapés, une table basse. Et cette disposition qu'on a trouvée dans l'entretien Trump-Zelensky, elle est profondément ancrée dans l'histoire, elle est héritée de ce qu'on appelle la levée, ou le lever, qui est un usage de cour dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, lui-même emprunté à la France.
Où on fait le tour,
c'est ça ? On fait le tour et c'est une audience de présentation.
Et donc ce bureau qui n'en est pas vraiment un, enfin je veux dire, c'est pas un lieu de travail en fait, le bureau côté, c'est un lieu de réception, et c'est un lieu de réception, Pierre Gervais, où on est habitué, effectivement, depuis longtemps, à voir, je dirais, les premiers mots de civilité convenus entre deux chefs d'État, et puis ensuite, les choses sérieuses commencent quand les caméras se frottent.
Pas depuis très longtemps, en réalité, puisque le Bureau Oval, comme cadre des rencontres officielles filmées, est en réalité un phénomène du XXe siècle, et plus précisément lié à la télé, en réalité.
Oui.
Vous aviez des bureaux ovales au 18e et 19e siècle dans lequel le président recevait des invités, mais évidemment il n'y avait pas de télé, il n'y avait à vrai dire pas de photographie non plus au départ, et donc la mystique du bureau ovale est quelque chose d'assez récent, c'est très caractéristique de ces traditions millénaires qui ont été inventées depuis le 19e siècle, connues dans toute une série de domaines. Ça c'est un premier point. Il y a aussi un problème de disposition, ce qu'on a vu l'autre jour n'est pas la disposition normale du bureau ovale. La disposition normale du bureau ovale c'est effectivement très formel, très formaliste, et donc les deux chef d'État, les deux potentats, le président américain et son vis-à-vis, sont de chaque côté de cette table basse, au pied du manteau, mais du manteau de la cheminée. Mais normalement, de l'autre côté des fauteuils, il y a deux petites tables. Je ne sais pas si vous souvenez visuellement de certaines rencontres fréquentes avec d'autres chefs d'État. Et ces deux petites tables séparent les deux chefs d'État de l'ensemble de l'assistance, qui est souvent composée des aides des deux chefs d'État, de plusieurs dirigeants américains, et puis aussi de journalistes, le cas échéant, pour suivre ce qui est dit, même si ce qui est dit est souvent pas extrêmement important, c'est plutôt ailleurs que ça se passe normalement. Là, ce qu'on a vu était très différent, oui. Puisque la disposition était totalement autre. Zelensky était en fait au niveau de Trump et Vance, ce qui n'est pas protocolaire, et tout à fait dès le début, il y avait un problème.
Et la présence de Vance n'était pas non plus protocolaire. C'est un espace visuel, c'est un espace cérémoniel, mais c'est aussi, d'une certaine manière, un espace fictionnel, Mathieu Pot-Bonneville, parce qu'on l'a tellement vu au cinéma et dans les séries.
Ça, c'est assez fascinant, c'est qu'en effet, la popularité du bureau ovale est liée à son utilisation télévisuelle par le président des États-Unis, par les présidents des États-Unis successifs, mais elle est aussi liée, au fond, de deux façons presque, à la mémoire de la télévision. D'une part, par la manière dont ce lieu a été pris comme cadre de très nombreuses fictions, de très nombreux films, mais aussi de très nombreuses séries télévisées, pour le coup. J'en ai compté un certain nombre, The West Wing, sur laquelle on reviendra, House of Cards, Veep, VIP, qui est une sitcom, donc plutôt dans le registre de la comédie, 24, où là on est sur la lutte contre le terrorisme, avec des types de fiction qui varient selon les urgences et les enjeux du moment, en quelque sorte, ou encore plus récemment Designated Survivor, qui se passait aussi dans ce cadre, de telle sorte que ce lieu, on a presque l'impression de le connaître, de l'arpenter. On sait que la petite porte donne sur le jardin, par exemple, parce que c'est là que les apartés se déroulent, etc. C'est
une sorte je vous coupe, mais il y a aussi le talk show, parce que c'est le canapé, tout ça.
Alors, c'est l'autre affaire. C'est qu'en effet, il y a non seulement une sorte de présence de cette visuelle, de cet espace dans la culture télévisuelle américaine, mais une sorte d'homogénéité entre cet espace et l'espace du talk show, en particulier des late shows, des chaînes de télévision américaine, avec ces canapés qui se font face, avec cette manière aussi de créer un lieu qui est entre le dehors et le dedans. Moi, ce qui me frappe à reparcourir différentes fictions télévisuelles sur le bureau ovale, c'est qu'au fond, c'est un lieu à l'intersection du professionnel et du familial. C'est-à-dire que ce lieu de réception, cette antichambre de palais, elle est en même temps tirée du côté de l'intime ou du domestique. Et la photo des enfants de Kennedy jouant dans le bureau ovale a participé de cette culture. Au fond, c'est ce qui relie la politique américaine à cette version, ce versant familial. Et puis de l'autre côté, on n'est pas très loin non plus de la vie de bureau. West Wing, on y reviendra, mettait en scène justement cette activité frénétique des cabinets et cette façon dont on est dans le monde professionnel. Donc on est dans cet entrelac-là, et c'est assez intéressant de voir comment, sur cette base-là, chaque président mais sa griffe,
oui.
Et la griffe de Trump est particulièrement marquante.
Mais justement, avant de parler de la griffe de Trump, il y a celle de Kennedy, puisque d'une certaine manière, c'est lui, enfin, ce sont les époux Kennedy, si je vous lis bien, Thierry Sarment, c'est dans l'histoire des palais, qui organise, en fait, pour la télévision, cet espace, à la fois, effectivement, de l'entre-deux cérémoniel et familial.
Jackie Kennedy préside à une grande rénovation de la décoration du palais tout entier, de la Maison Blanche tout entière. Elle-même, elle est imprégnée de culture européenne et elle reste dans l'idée du néoclassicisme partout, mais en variant, en mettant de l'Empire, du Géorgien, du Fédéral, enfin tous les styles néoclassiques successifs, faisant réaliser des achats. D'ailleurs, il y a un documentaire célèbre qui la montre faisant visiter l'ensemble de la Maison Blanche à un journaliste, et tout en ayant l'air de s'effacer d'ailleurs devant les choix de son mari, puisqu'à l'époque, une First Lady n'est pas censée avoir une influence propre.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est contemporain et comparable, d'une certaine manière, avec la restauration de Trianon par De Gaulle. Écoutez ce reportage télévisé, c'était en 1966.
Trianon, nouvelle résidence des hôtes officiels de la France et du chef de l'État. La restauration de Trianon, musée-résidence, constitue un véritable tour de force.
La restauration de Trianon a été une aventure qui a été décidée assez brusquement et qui a dû être exécutée extrêmement rapidement. Nous avons eu 250 ouvriers sur le chantier et nous avons, entre le moment où nous avons donné le premier coup de pioche et le moment où nous sommes partis, il s'est passé 26 mois. Pour un chantier pour lequel, en réalité, il aurait fallu 4 ou 5 ans.
Tel était Trianon en 1963. Mis à ciel ouvert, puis recouvert. Les planchers furent partout déposés, puis reposés tels qu'ils étaient.
Il s'agit pour nous simplement de restaurer des boiseries en ruine qui étaient dans un état abominable. Nous avons tout démonté, nous avons tout remis en état. Et là où nous avons remis en état, mais sans inventer, mais en regardant bien ce qui était, c'est que dans les sculptures manquantes, par exemple, on retrouvait leurs traces grâce à des peintures qui existaient à certains endroits et qui cernaient le contour des éléments qui avaient disparu et qu'on a retrouvés sur des documents.
Voilà le parti pris pour Trianon, c'est les parois Louis XIV et l'ameublement, le premier état historique que nous pouvions restituer.
Vous écoutez, allons-y voir, nous sommes en direct pour parler, non pas de Trianon, même si c'est comparable, mais du bureau ovale. Alors justement, Thierry Sarment, on essayait de commencer à voir comment Donald Trump en a hérité de cet espace essentiellement kennédien, donc fait pour la télévision. Il l'a un petit peu modifié, il a changé le tapis par exemple, il était bleu, couleur démocrate, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il a changé? On a vu aussi quelques drapeaux qui étaient des drapeaux militaires derrière lui.
Il a rétabli, il y a toujours dans le bureau ovale, derrière la table du président, il y a toujours le drapeau des États-Unis,
le sceau présidentiel.
Et l'étendard du président lui-même. Mais il a remis en place, qui avait été enlevé par les présidents précédents, quatre drapeaux de part et d'autre de la cheminée, qui sont les drapeaux des quatre forces armées. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et le corps des Marines.
Et on voyait les Marines, justement.
Et on voyait d'ailleurs,
on voyait
le drapeau des Marines très visible.
Et pas le drapeau ukrainien. Il a changé aussi, il a enlevé le portrait de Roosevelt et il a mis celui d'Andrew Jackson. C'était qui Pierre Gervais?
Alors, c'est intéressant parce que ça renvoie à son programme, hein, et je pense que toute cette affaire doit être reliée très précisément au programme de Trump, qui est un programme de destruction effectivement de l'héritage rooseveltien,
de populiste, c'est ça.
Roosevelt a introduit l'État-providence.
Oui,
Roosevelt
a introduit.
Alors Jackson était un président raciste. C'était un président de planteur du Sud. Il a présidé à l'expulsion des Amérindiens également de l'Est des États-Unis. C'était un président extrêmement violent. C'est un président qui a délibérément ignoré des ordres de la Cour suprême. Je pense que là encore, c'est un modèle pour Donald Trump. Donc à tous égards, Jackson représente le modèle de Trump et donc un retour à une Amérique à moitié fantasmée, mais à moitié aussi pré-lumière, peut-être, on pourrait dire, presque une imagination de retour à l'esclavage, de retour à ce qui avait lieu avant la guerre de sécession.
Donc le décor est planté et, je le répète, le vendredi 28 février, on entendait ça.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
But
right now, you don't.
Yeah,
you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
On va pas vous l'infliger en long. Ça a duré bien longtemps. Hein, voilà, de 11h20 sans doute, 11h40 jusqu'à 13h. Qu'est-ce qui se passait?
Ça a paru long, mais c'était en fait.
Oui, enfin, il y a eu un moment court, paroxystique. Hein,
la première demi-heure, il s'est pas passé grand-chose. C'est véritablement un moment de 5 à 6 minutes, en réalité, qui paraît extrêmement long quand on l'écoute, mais c'est parce qu'il est assez déplaisant, au fond. En réalité, l'affrontement lui-même n'a pas duré tant que ça. Le problème, c'est qu'on change complètement de genre. Il y a une généalogie du bureau ovale. Il y a eu des bureaux ovales sous une forme ou sous une autre depuis Washington. Jusqu'à Kennedy, effectivement, c'était des lieux de réception du public. C'est-à-dire que c'était tout à fait ce que disait Mathieu, à mi-chemin entre le public et le privé. Donc le président, d'une certaine façon, faisait rentrer dans l'intimité de son travail et dans l'intimité de sa maison. À partir de Kennedy, c'est devenu un lieu de théâtre télévisuel, essentiellement, en grande partie. Mais ça n'avait pas de contenu. Avec Trump, on change encore de genre.
Oui.
C'est un lieu de domination, c'est un lieu d'expression de la domination du président, parce que le programme était de dominer Zelensky. Et en réalité, je pense que ça n'était pas prévu, l'affaire n'était pas prévue au départ.
C'était un peu improvisé pour vous.
C'était pas du tout improvisé, c'est pas ça. C'est que ce qui était prévu par Trump et Vance, c'est que Zelensky se soumette. Il était là pour faire allégeance, il était là pour obéir. Et donc, ce qui a beaucoup choqué Vance et Trump, c'est que Zelensky s'est permis d'argumenter.
Ouais.
Alors, il n'était pas là pour argumenter, il était là pour obéir.
Et d'une certaine manière,
c'est là que ça a explosé.
Et c'est ce qui est intéressant, Mathieu Podbonneville, c'est qu'on a le sentiment que là, il y a un affrontement qui n'est pas fin, parce que ce sont deux formes de parler vrai qui s'affrontent.
En effet, ce qui est assez frappant dans cette scène, bon, d'abord, il y a une chose à dire, c'est que ce que Trump met en scène, c'est sa capacité à bouleverser les règles. Les règles protocolaires, les règles de la mise en scène du pouvoir même. J'ai vu sur l'affiche américaine Wikipédia du bureau ovale, dans la nomenclature de l'iconographie placée par chaque président, sur ce mandat Trump 2, figure un exemplaire encadré du New York Post où figure le mugshot, c'est-à-dire la photo d'identité criminelle de Trump lorsque celui-ci a été arrêté et soumis à cette photographie. Donc Trump a fait encadrer le journal qui le représente en convict. Donc manière de placer cette présidence sous le signe de la rupture d'avec la loi, d'avec l'ordre légal d'une part, et puis d'autre part de la revanche, de la vengeance. Donc ça, je crois que c'est une chose qui est très importante, parce que il faut replacer, je pense, cette scène dans le temps long des présidences américaines, de la manière dont, au fond, chaque président a aussi construit son autoportrait de telle manière de définir un certain style politique. Je crois qu'il ne faut pas opposer tout simplement Trump à l'ensemble des présidents qui le précèdent, mais peut-être il faudrait regarder comment chaque président, un travail que le philosophe Michel Ferrer avait fait de manière remarquable il y a quelques années, chaque président s'est autoportraituré. Qui en champion du monde libre, qui en pourfendeur du terrorisme, etc. Et Trump est dans cette histoire. Et l'histoire que raconte à ce moment-là Trump, c'est « je suis le président qui est capable de mettre à bas toutes les règles et de sortir de la mise en scène attendue. »
Et d'en construire d'autres. Enfin, je pense que là, vraiment, il ne faut pas seulement parler de démolition, c'est une construction. Moi, à mes yeux, Trump est une construction. C'est une construction d'un régime autocratique, que moi je qualifie de néo-fasciste pour des raisons bien précises. Hein. C'est un régime pyramidal, où le chef a tout pouvoir, qui s'émancipe du règne de la loi tel qu'il est régné depuis le XVIIIe siècle, et qui est fondé sur la loyauté personnelle et individuelle qui descend jusqu'à la base, avec une appartenance qui est définie politiquement, et pas seulement par la loi. Donc là, on a un vrai programme, et d'une certaine façon, la scène du 28 février n'était qu'une des expressions de ce programme. Bien sûr. Parce que Zelensky, dans ce programme, est un subordonné. Il y a très peu d'égaux. Hein. Trump voit comme ses égaux Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Netanyahou. Et probablement même pas les d'autres potentats moins importants, il estime qu'ils sont pas à son niveau. Donc il y a c'est une admiration, c'est une grande admiration pour les hommes forts, et les hommes forts entre eux sont égaux, tous les autres sont à leur service. Et le choc de cet incident vient du fait que Zelensky se voyait comme un égal de Trump, donc il a été choqué entre autres que Vance lui adresse la parole de cette manière. Trump ne voyait pas du tout Zelensky comme son égal.
Et puis il y a autre chose, Mathieu Potbonneville, c'est que Zelensky, c'est aussi lui aussi il brise les codes lui aussi.
Absolument. Moi je trouve que ce qu'il y a de très singulier dans ce moment et de très significatif, c'est que Trump se présente comme celui qui fait et défait les règles. Et qui au fond est capable d'arracher le décor, d'arracher le rideau pour faire apparaître la vérité nue de la relation, c'est-à-dire le deal. Au fond, dire voilà, nous allons faire un deal, soit vous acceptez, soit on arrête de vous soutenir, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais il a face à lui un Zelensky qui arrive dans une certaine mesure, porteur également d'une certaine manière de déchirer les convenances diplomatiques en faisant valoir la réalité de la guerre, la réalité de la situation dans laquelle son pays se trouve, et ce qui place Trump dans la position très paradoxale de devenir le gardien des convenances. Parce que si on y regarde bien, tout ce que Trump va reprocher au fur et à mesure de l'échange, et c'est quand même extraordinaire,
c'est de pas dire merci,
c'est de pas dire merci, c'est d'arriver en t-shirt. Ouais. T-shirt, Elon Musk est en t-shirt tout le temps dans le bureau ovale. Donc, très curieusement, et c'est ce qui exaspère visiblement dans la scène Trump, ce qui redouble sa fureur, ce qui fait passer de la fureur jouée à la fureur réelle, on a deux manières comme ça de se présenter comme une rupture vis-à-vis du cadre traditionnel et policé des échanges diplomatiques. L'un au nom de la puissance et du deal, l'autre au nom du droit et de la guerre. Et cet affrontement-là, il est absolument...
Je voudrais corriger sur le deal, parce que le deal chez Trump a un sens très particulier qui n'est pas le sens qu'on attribue généralement à ce terme. Le deal, chez la majorité des gens, c'est un accord entre partenaires, d'une certaine façon, où chacun cède un petit peu. Or, Trump n'a pas du tout cette vision du deal. Le deal, pour lui, c'est l'expression de sa décision qu'il force l'autre à accepter. Donc on n'est pas du tout dans une procédure de négociation réelle. Il s'agit simplement de forcer l'autre à passer par là où Trump en veut. Et je pense que derrière, il y a une publicité sur le deal qui est très trompeuse, parce que Trump n'est pas intéressé par le deal.
Thierry Sarment, vous êtes encore une fois un historien de l'ancien régime, du monde russe, de l'architecture. Donc normalement, tout ça devrait effectivement... contenir la violence des propos.
Il faut rappeler que ce moment dure en fait 50 minutes. Et la partie clash dure 5, 6, 7 minutes, on peut dire. Et les 40 premières minutes, on est encore dans le registre protocolaire classique d'une pseudo-conférence de presse où on échange des banalités. Et d'ailleurs, on peut regarder d'autres épisodes précédents où il y a eu le président Macron est passé, le premier ministre Modi, le premier ministre britannique, etc. Et déjà sous Obama, il y avait déjà ce moment où on voyait filmer des chefs d'État ou des chefs de gouvernement étrangers placés dans les mêmes fauteuils de style Queen Anne, de part et d'autre de la cheminée, suivant un dispositif scénique qui est millénaire en fait. Et le malaise vient de ce que, en fait, à la 40e minute, ce dispositif saute par l'intervention d'un tiers. Parce que, en principe, quand vous avez deux chefs d'État ou deux chefs de gouvernement ensemble, c'est les deux seuls qui parlent. Et les autres ne sont qu'une cour muette. Ouais. Et ce qui brise le protocole, c'est qu'un personnage assis dans le canapé, position subalterne par rapport à ceux qui sont dans les fauteuils, devient le troisième larron, et du coup on tombe dans un autre système, c'est 2-1.
Mais excusez-moi, mais moi je suis médiéviste hein, dans le civil, si j'ose dire, et c'est jamais bon signe quand un médiéviste s'y reconnaît dans une scène contemporaine. Pardon, mais c'est un rituel d'humiliation publique. C'est un rituel. D'une certaine manière, vous êtes historien de l'absolutisme. Il y a bien des moyens aussi de donner à voir cette grande scène de grand genre, dites-vous Thierry Sarment, qui est de l'humiliation.
Alors, il y a des précédents de ce type, mais jamais devant des télévisions.
Et c'est ça.
Le précédent auquel j'ai pensé, le premier, c'était le 15 août 1811, c'est Napoléon qui fait une grande scène à l'ambassadeur de Russie aux Tuileries, le prince Kourakine, et c'est la grande scène qui va mener à la campagne de Russie. Il lui fait une scène publique dans la salle du trône, devant tout le corps diplomatique, les évêques, les princes, etc. Mais évidemment, donc c'est connu par la presse, mais ça n'a pas le retentissement que ça peut avoir maintenant. Et puis l'autre précédent, cette fois-ci c'est à plusieurs contraintes, c'est la nuit du 14 au 15 mars 1939, Hitler avec le président Hacha. Et là, on retrouve cette idée de Hacha n'a que deux collaborateurs avec lui, Hacha président de la Tchécoslovaquie, n'a que deux collaborateurs avec lui, tandis que Hitler est avec tout son état-major. Et d'ailleurs, ça va à tel point que Hacha fait un malaise cardiaque pendant la nuit, et à l'issue, il signe la reddition de la Tchécoslovaquie et le protectorat, sa transformation en protectorat de l'Allemagne. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Alors, c'est la question qu'a dû se poser Zelensky, non, Thierry Sarmant. Est-ce que je dois rester ou partir?
Est-ce qu'il devait partir? Certainement pas, ça aurait aggravé le clash. Ça aurait plutôt servi le...
C'est clash qu'on a entendu. Vous voyez que tout est lié dans cette émission.
Ça aurait effectivement servi la cause de la partie adverse. En fait, il a très bien tenu son terrain. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il lui-même, il est acteur. Il sait gérer son trac, il sait gérer le stress. Il a eu d'autres stress à gérer pendant les trois dernières années. Il a très bien tenu son terrain. Et au fond, le plus humilié dans l'affaire, c'est pas tellement lui. Quand on regarde la scène, le plus humilié, c'est le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui, lui, est vraiment complètement dépossédé de son portefeuille par Vance.
Et c'est lui, apparemment, qui a dû aller dire à Zelensky qui part et qui a pas de, Il y aura pas de déjeuner, il y aura pas de...
Lui, il s'enfonçait dans son fauteuil d'une façon très peu protocolaire, tellement la gêne l'habitait.
Vous êtes d'accord avec ça,
Pierre? Alors, Rubio a perdu son portefeuille, le respect de soi-même et tout rôle politique depuis quelque temps déjà. Le problème avec la scène, si on la regarde bien, alors il s'agissait quand même d'un guet-apens au sens où, si vous regardez encore une fois la disposition des fauteuils, les auditeurs peuvent vérifier cela encore sur Internet aujourd'hui, elle n'est pas habituelle. C'est-à-dire que effectivement les divans avec Vance dessus, entre autres, sont beaucoup plus près des deux fauteuils, au point d'être pratiquement au même niveau. Les petites tables qui séparent d'habitude les deux chefs d'État du reste de l'assistance ont été repoussées en arrière. Donc Zelensky se trouve au fond, au centre d'un cercle. Donc il était évident, effectivement, que dès le début, l'idée était d'inclure Zelensky dans une décision collective de soumission de Zelensky et d'acceptation publique de Zelensky de la solution Poutine-Trump. Je pense que c'était ça le plan de départ. Après, ce qui s'est passé, et là je dois dire que j'ai pas d'avis à donner au président Zelensky parce que le choix était compliqué, Zelensky pouvait soit accepter de faire semblant, d'une certaine façon, c'est-à-dire ne pas reprendre Vance sur l'affaire diplomatique ou simplement dire quelque chose du genre « bah oui, mais Poutine nous a beaucoup trompés, nous a beaucoup envahis, a cassé tous les accords, donc est-ce que nous, on voudrait une garantie de votre part, cher maître, monsieur Trump, grand Trump, acceptez-vous de donner votre garantie ?» Ça aurait pu être une boule à jouer. Ou alors, effectivement, faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire estimer que quand même la Vance dépassait les bornes et dire que l'ensemble de l'histoire de Poutine et de la Russie avec l'Ukraine dans les 15 dernières années est une histoire d'accords rompus et d'invasion. Il a choisi la deuxième solution, ce qui a conduit à l'affrontement puisque ni Trump ni Vance n'étaient prêts à accepter ce type d'attitude. Et d'une certaine façon, la disposition des fauteuils le montrait dès le début. Mmh. Et donc, ça a conduit au résultat final. Je suis incapable d'évaluer, parce que je suis historien et pas futurologue, ce que ça va donner du point de vue des Ukrainiens, des Russes ou des Américains. On va voir dans les mois et années qui viennent ce que ça donne. Mais en tout cas, ça renvoie à une prise de position très précise de la part de Trump.
Bien sûr, mais ce que ça va donner du point de vue, je dirais, de l'ordre mondial et aussi, on l'a dit, de cette dignité tout de même de l'ordre aussi des pouvoirs, c'est cette question de savoir si, j'y reviens, on va accepter la prophétie de Trump. Il n'a pas dit c'est de la bonne télévision, il a dit c'est en train de devenir de la bonne télévision. Et ça devient de la bonne télévision si on accepte, sans sourciller, le terme « clash ». Justement, dire que c'est un clash, et c'est frappant, Mathieu Pot-Bonneville, de voir comment toute la presse a finalement gobé cette dénomination, c'est d'une certaine manière poursuivre le travail de la déréalisation du politique par la télé-réalité, non ?
Alors je pense qu'en effet, la dimension télévisée de l'affrontement n'est pas secondaire dans cette histoire. Elle participe de la mise en scène et de la disposition des fauteuils qui sont faits pour être non seulement configurés de cette façon dans l'échange, mais filmés de cette manière. Donc cette scène est prévue pour être télévisée et elle vise à s'inscrire dans une histoire qui est une histoire longue, assez précise.
Du clash.
Et
c'est quoi alors cette histoire?
Aux États-Unis, c'est une histoire qu'on peut attraper de plein de manières, qu'on peut attraper, par exemple, dans le champ de la mémoire télévisuelle. Je recommande très vivement, malgré la musique horripilante, le documentaire en deux parties actuellement visible sur la plateforme Netflix qui s'appelle Jerry Springer Silence, Moteur, Altercation, qui est un documentaire consacré à une émission qui a été un pilier de la télévision américaine pendant 20 ans, qui s'appelait le Jerry Springer Show. Le parcours de Springer est très intéressant parce qu'il est symétrique et inverse de celui de Trump. C'est-à-dire Trump, là où Trump arrive à la politique par la télévision, Springer est d'abord maire de Cincinnati, puis présentateur de télévision, puis se lance dans un talk show relativement ennuyeux au départ, relativement embêtant, comme il y en a énormément en fait, et aucun d'entre eux ne parvient à la cheville de Oprah Winfrey à l'époque. Or l'audimat donc ne décolle pas, et la chaîne s'adjoint les services d'un producteur qui est un producteur qui vient du monde des tabloïds, qui vient du monde vraiment de la presse, je sais plus si vous vous souvenez de ce journal qui s'appelait Info du Monde. L'homme à deux têtes, Elvis enlevé par les aliens, etc. C'est lui qui prend les commandes de l'affaire. et qui introduit dans le Jerry Springer Show cette idée que la transgression devient le levier fondamental du spectacle télévisuel. Et transgression il y a, multiple et variée, j'ai épousé un cheval, je ne veux pas mettre de vêtements, donc une femme nue sur scène qui explique qu'elle est vraiment allergique aux vêtements, jusqu'à ce que Springer invite sur son plateau des membres du Ku Klux Klan, qui arrivent, la scène mérite d'être vue, elle figure dans le documentaire, en faisant ce qu'on appelle depuis quelque temps le salut romain, ce salut qui a peu d'ambiguïté, et face aux membres du Ku Klux Klan arrive le deuxième invité, qui est le représentant de la Jewish Defense League, accompagné de ses gardes du corps, qui saute à la gorge, évidemment, des membres du Ku Klux Klan, et ça se termine dans un pugilat absolument effrayant et jouissif, évidemment jouissif. Je défie quiconque de s'empêcher de rire à la suite de cette scène, c'est-à-dire à la succession en fait des pugilats qui vont avoir lieu sur scène. Donc le clash, il est vraiment fabriqué au moment où Trump en fait met en scène The Apprentice, l'exercice du pouvoir à la télévision. Springer invente cette oui. idée que la télévision c'est le lieu de l'affrontement physique, de l'affrontement violent et de la mise en scène, de la sortie de la mise en scène.
Et toute la question au fond, c'est celle que vous posiez en évoquant Serge Danet, Mathieu Pot-Bonneville, c'est si l'histoire de la télévision ne nous a pas finalement préparé à accueillir ainsi cet événement qui est effectivement une sorte de saccage symbolique d'un lieu de pouvoir, comme d'ailleurs Elon Musk l'avait fait quelques jours avant avec un de ses enfants sur les épaules, et disant aux journalistes « Je vais dire des choses fausses pour vous habituer. » Écoutez, c'est ce que vous vouliez d'ailleurs écouter, Mathieu, un extrait de la deuxième saison de The West Wing, 2000, je crois, où là, alors pardon, c'est en français, mais faut comprendre ce qui se passe, et d'une certaine manière, il y a une sorte de mécanique, du clash qu'on va pouvoir démonter.
S'il vous plaît, mes amis, le président des États-Unis.
Merci. Merci infiniment. Merci. Je voudrais pouvoir rester plus que quelques minutes avec vous, mais les bureaux de vote dans l'Est ne ferment que dans une heure. Il reste donc une montagne de résultats électoraux à falsifier. Cela dit, avec toutes les personnes qui prennent part au débat aussi bien politique que de société, à travers des émissions de radio, il est bon de se souvenir de temps en temps... Il est bon de se rappeler le redoutable impact... Le redoutable impact... Je suis désolé. Vous êtes le docteur Jenna Jacobs, n'est-ce pas?
Oui, monsieur.
Bienvenue à cette soirée.
Merci.
Le redoutable impact des ondes radio et de la façon dont ces discussions se répercutent ensemble sur nos débats nationaux, mais aussi manifestement sur... Excusez-moi, docteur Jacobs, vous êtes docteur en médecine?
J'ai un doctorat.
Un doctorat?
Oui, monsieur.
En psychologie?
Non, monsieur.
En théologie?
Non.
En sciences sociales?
J'ai un doctorat en littérature anglaise.
Je vous demande ça parce qu'à la radio, on vous appelle pour avoir des conseils et comme dans votre émission, on vous appelle docteur Jacobs. J'étais en train de me demander si vos auditeurs s'y retrouvent et s'ils ne croient pas que vous avez fait des études supérieures en psychologie, en théologie ou en médecine.
Je suis persuadée qu'ils s'y retrouvent, monsieur.
Bien, j'adore votre émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination.
Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le Président. C'est la Bible.
Oui, c'est juste. Dans le Lévitique.
18-22.
Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que les y autoriser dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en deuxième année de fac, parle l'italien et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander? Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question? Mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police? Encore une question vraiment importante, parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football? Et l'équipe de Notre-Dame? Et celle de West Point? Tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ? Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus? Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous. Encore une chose. Au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignares coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Alors, Mathieu Podbelle.
Très vertigineux de réentendre cette scène de The West Wing, qui était une sorte d'uchronie déjà à l'époque, cette idée qu'un président progressiste extrêmement cultivé, je retiens le fait qu'il avait un exemplaire de Surveiller et punir dans la bibliothèque, dans le dernier épisode de la série, se retrouve à faire la leçon à une fondamentaliste chrétienne, en lui remontrant les choses en matière de connaissance de la Bible, et puis en terminant sur une leçon de bienséance, vous l'aurez noté, de protocole, d'une certaine manière inverse de celle à laquelle on a assisté, en lui demandant de se lever, puisqu'elle est la seule assise, on ne le voit pas en écoutant la scène, elle est la seule assise dans l'assemblée au moment où il parle. Je trouve ce passage assez fascinant parce que moi j'ai tendance à penser, mais peut-être mon regard est-il déformé par ce prisme télévisuel, que ce à quoi on a assisté d'une certaine manière ce vendredi, c'est l'affrontement des talk-shows et des séries d'une certaine façon. Là où les séries ont mis en scène avec la distance de la fiction, ont interrogé l'exercice du pouvoir aux États-Unis de multiples manières, dans le même moment les talk-shows s'appliquaient à détruire assez systématiquement la différence entre la réalité et le fantasme.
Oui, les séries qui disent la vérité.
Très curieusement, ce ne sont pas les reality shows qui disent la vérité, ce sont les séries qui la racontent. On a dit beaucoup d'ailleurs que West Wing avait anticipé sur l'élection d'Obama à travers le personnage de Santos qui intervient dans les dernières saisons. Moi, je trouve ça assez intéressant. Là où, à mon avis, passer par la culture visuelle à la culture télévisuelle n'est pas frivole ou ne détourne pas de l'objet, c'est que ces mémoires d'images ont des effets sur les configurations de pouvoir et de mise en scène du pouvoir qui se jouent au présent.
Pierre Gervais.
Oui, ceci dit, oui, je voulais rajouter quand même au niveau du conflit. Je pense qu'effectivement qu'il y a conflit, mais il y a d'autres lectures possibles du conflit qui seraient des lectures d'une certaine façon substantive, dans lequel on verrait un conflit, enfin moi ce que j'y vois c'est effectivement un conflit entre deux conceptions du pouvoir, et qui est traduite visuellement dans la scène en question par Trump, parce que c'est lui qui organise la scène visuellement, donc effectivement c'est sa conception à lui, c'est une conception verticale, c'est une conception autocratique, tout à fait dictatoriale, et puis une conception du pouvoir comme un échange et une négociation qui est celle de Zelensky. Et je pense qu'il y a un vrai conflit, donc il y a eu clash, à mes yeux, il y a eu vraiment clash, mais le problème de la couverture médiatique est que la nature de ce clash n'a pas été correctement identifié. Il ne s'agissait pas d'un clash de politesse, il ne s'agissait pas d'un clash de forme, il s'agissait d'un clash de rapports internationaux. Est-ce que Zelensky allait faire allégeance à Trump et obéir à Trump et Poutine? C'était ça la question, la réponse a été non, et du coup ça s'est mal passé.
Thierry Sarmant.
Ce procédé dictatorial, je reprendrai l'adjectif d'humiliation télévisuelle, il a été précédé dans d'autres pays assez récemment, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu en Chine ce congrès ou cette ouverture de l'Assemblée du Peuple, où on a fait sortir devant les télévisions l'ancien président a été expulsé de la salle devant les écrans. Similairement, en Russie, on a eu au moment du début de l'offensive ratée sur Kiev, Poutine qui a dû réunir les dignitaires du régime et a contraint le chef des services de renseignement à donner publiquement son adhésion à l'opération, alors que l'autre était réticent. Et devant la télévision, il lui a arraché un consentement. C'est le même procédé, très humiliant, mais démultiplié par les écrans.
Mais disons que j'y pense, pour décoder ce rituel viriliste, nous sommes quatre mecs, ça va pas du tout, je vous félicite pas. Écoutons plutôt les Four Non Blondes dire Mr. President 1992.
Outside of my window, the view that I see is a child and mama, and the child is begging for money. Tell me why the woman is blind. Is she so broke, the kid's stealing crime. It's such a beautiful city, but the world is burning it down. It's such a beautiful city, but the world is burning it down. I go to my room to turn on the TV. I sit myself down and I start laughing hard, 'cause this man, he's asking for money. He says, if you send me lots of cash, I'll send you stuff to make you rich fast. It's such a wonderful country, but the man, he's burning it down. He's burning it down. And it's burning down. And it's called the U.S. of A. One day I'm gonna have lots of money, and then I'm gonna have to give it up for this rich society. Oh, oh, give me the president, won't you lend me a future? God, you'll just get it back from the little blind woman with the kid on the corner, and the people all over doing crack.
Thierry Sarment, vous avez dans l'histoire des palais comparé la Maison Blanche avec l'Élysée. Aujourd'hui, nous sommes en direct dans la Maison Ronde pour parler du bureau ovale. Et d'une certaine manière, il y a des vraies différences dans l'accès public. Hein, d'ailleurs, l'Élysée, on n'y rentre pas si aisément. En dehors de toute comparaison du personnel politique, une scène comme celle que nous tentons de sur laquelle nous tentons de mettre des mots, celle du 28 février, est difficile à imaginer à l'Élysée.
Oui, parce que la Maison Blanche est un palais assumé. Il est considéré comme un palais vraiment national, le palais du peuple américain. Et il n'y a pas de critique vis-à-vis du luxe de la Maison Blanche, parce que c'est une maison où tout le monde entre. Tandis que l'Élysée est un palais ambigu, hérité de la monarchie, où il y a des rites monarchiques qui se déroulent encore. Et du coup, on n'en fait pas un instrument de communication présidentielle majeur. Et le bureau présidentiel, il est photographié, il est très rarement filmé. Et jamais on a imaginé de faire une conférence de presse dans le bureau du président.
Inversement, le Conseil des ministres, là on le voit souvent, alors que dans la Maison Blanche, on ne sait pas exactement où il a lieu.
Dans la Maison Blanche, il a lieu dans ce qu'on appelle le Cabinet Room, qui est une pièce solennelle.
Mais il n'est pas souvent filmé.
Mais ça n'est pas un lieu qui a une forte charge symbolique. Et en France, l'Élysée est un peu dans un entre-deux. Il reste un lieu désiré par les politiques, mais qui les met un peu mal à l'aise, qui les met un peu en accusation d'être les successeurs des rois.
Et oui, toute la question au fond de ces palais, peut-on gouverner innocemment dans un palais, c'est de savoir si effectivement ils exaltent le pouvoir ou si au contraire ils les maintiennent dans une certaine un ordre qui intimidant. Voilà. Normalement, c'est plutôt fait pour ça.
C'est la raison pour laquelle les Macron ont entièrement remeublé en moderne l'Élysée, pour démocratiser d'une certaine façon, plus ou moins consciemment. Ce qui fait que le grand paradoxe, c'est que maintenant, il y a plus de meubles traditionnels français à la Maison-Blanche qu'à l'Élysée.
Alors ça, on a parlé, Mathieu Pottebonneville, de la dimension télévisuelle, et elle était fondamentale, y compris dans l'architecture même du bureau ovale, de cet événement. Mais il n'y a pas que la télévision, il y a aussi, évidemment, aujourd'hui, la télévision, elle est pourvoyeuse d'images pour les réseaux sociaux.
Oui, en effet, il y a un effet rebond qui est absolument déterminant, qui est que les scènes qui sont filmées, qui sont diffusées, sont faites pour être rediffusées avec des exigences de format qui sont extrêmement précises. Et en effet, si la scène, si le passage absolument embarrassant de cette séquence du 28 février ne dure qu'une fraction de temps de la scène globale, c'est de manière aussi à pouvoir être monté en épingle, comme on dit dans la joaillerie, et devenir un clip qui va circuler et rebondir de compte en compte et de média en média.
Et qui va être aussi relayé, parodié, avec l'IA et tout. Et tout cela aussi coupe l'herbe sous le pied de toute critique parodique. Parce que finalement, on peut se poser la question de savoir ce qu'on fait vraiment quand on exagère, quand on caricature cette scène.
Il y a différents registres de parodie, mais en effet, bad buzz is buzz. Et donc, tout ce qui reprend et répète la scène, on en revient à notre propos de départ, tout ce qui reprend et répète la scène contribue à la prolonger, même si je ferais une différence entre ces scènes tournées en intelligence artificielle où on voit Zelensky mettre une droite à Trump dans le bureau ovale, qui sont des scènes assez sidérantes, et les parodies extrêmement profondes en réalité des professionnels en la matière du Saturday Night Live, par exemple, aux États-Unis, qui reprennent la scène et la décortiquent élément par élément, caricaturant l'intervention, l'indignation surjouée de Vance, la critique du t-shirt de Zelensky alors que Elon Musk est avec un t-shirt, etc. Enfin bref, il y a un usage critique de la parodie qui n'est heureusement pas soluble dans le buzz. Et je pense que c'est très utile.
Et la comparaison alors de ce point de vue entre la France et les États-Unis, en dehors de celle que mène Thierry Sarmant sur les lieux du pouvoir, elle a une efficience.
De ce point de vue-là, elle est déterminante. C'est-à-dire qu'au moment où cette scène est mise en scène dans le bureau ovale, on sait que les médias du groupe Bolloré mènent une offensive extrêmement précise et concertée, avec là aussi une logique de rebond qui fait que ce qui est sur Europe 1 le dimanche se retrouve sur... Donc j'ai pris les choses dans le mauvais sens. Sur Europe 1 le samedi se retrouve dans le journal de dimanche le dimanche, avec une participant à l'entreprise, en tout cas, au projet de vassalisation des opinions européennes et de l'opinion française en vue d'un projet global de rapprochement avec la Russie. De ce point de vue-là, il y a une continuité parfaite entre cette scène du 28 février et l'annonce de Cyril Hanouna de son rebond futur sur une autre chaîne de télévision.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, Pierre Gervais, c'est que cette qu'on l'appelle rituel d'humiliation, piège, guet-apens, clash, si on veut. Cette scène-là, c'est l'ensemble de l'Europe qu'elle intimide, comme le discours de Gide Evans à Munich est un discours que tous les Européens devraient lire, parce que
c'est un programme commun, organisé, de destruction de la démocratie libérale, de l'héritage des Lumières, de la liberté personnelle d'un certain nombre de groupes exclus qui vont des immigrés au LGBTQ+, etc. Et c'est un programme qui est partagé par Trump, par Poutine, par certains dirigeants européens. On se demande parfois par certains ministres français quand on les entend. Et donc c'est un programme qui est véritablement cohérent et qui est un programme politique dont je pense que la cohérence doit être analysée. C'est sous cet angle sans doute que c'est le plus utile de voir comment ces scènes transmettent et manifestent une cohérence autocratique qu'on pourrait qualifier, certains la qualifient de néo-nazie, en tout cas c'est certainement une cohérence fasciste, et c'est cette analyse-là qu'il faudrait mener, oui.
Ça a été d'ailleurs annoncé dans le programme 2025 qui déroule.
C'est annoncé par Trump de manière tout à fait continue depuis maintenant un an et demi, et ce qui est étonnant, c'est qu'on entend encore des gens dire mais il plaisante, les garde-fous de la démocratie américaine vont arranger tout ça, etc. Non, pas du tout. Là, nous sommes dans une situation de coup d'État lent. On verra comment ça aboutit. Et la même chose peut arriver ailleurs, y compris en France.
Alors, qu'est-ce qui peut tenir, en fait? Puisque, au fond, on était là, on a voulu parler du bureau ovale parce qu'on pensait naïvement que les lieux nous tenaient.
Non.
Qu'on savait se tenir dans les lieux du pouvoir.
Non, donc, pas quand vous êtes un autocrate. Je veux dire, Hitler a jamais été respectueux des lieux de la République de Weimar. Et je pense que, enfin, là, on atteint le point Godwin. Mais je pense que ce sont des comparaisons qu'il faut faire parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas tenus et qui ne sont tenus que par l'opposition collective, populaire, institutionnelle aussi, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est plutôt en retrait, on pourrait le dire comme ça.
Ça sert à quelque chose, l'histoire, Thierry Sarment, et en particulier l'histoire de l'Empire russe
Le bureau du Führer avait 900 mètres carrés, donc vous voyez qu'il y a encore de la marge entre le bureau ovale et ce bureau de la chancellerie du Reich.
Donc l'histoire peut quand même nous être une consolation, et la philosophie, Mathieu Podmonville.
Peut-être juste insister sur un détail de décoration. Lorsque Trump est arrivé en 2017, dans le bureau ovale, il a fait changer la couleur des rideaux pour les installer en doré. Doré, qui est la couleur de la Trump Tower et la couleur de son empire. Je crois qu'il ne reconnaît pas d'autres lieux que les siens.
Vous entendez ? Vous reconnaissez ?
Mais oui, c'est le générique de The West Wing.
Ben oui, parce que c'est ça aussi qui est extraordinaire. Tout ça a été par avance décrit, annoncé par la fiction télévisuelle. Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Mathieu Podmonville, Thierry Sarment et Pierre Gervais. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie Catherine Gallet et Anouk Minaudier. Je les remercie tout particulièrement à la prise de son Élise Leu et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes. Merci à tous.